Ça veut dire donc, à l'échelle universelle, la plus indifférenciée, et pour cela, pour y arriver, le Talmid Hacham doit atteindre la valeur de la modestie, au point d'être le pontife, c'est-à-dire d'être piétiné par n'importe qui, par tous, puisque son parfum concerne tous. Vous voyez à quel niveau, donc les choses, à quel niveau de profondeur, je dirais, les choses se placent maintenant. C'est ça, la vraie Torah, nous dit le Maharal. Au début de cette de rencontre entre la tradition juive et la culture occidentale, nous l'avons vécu au niveau du visage de la culture française, eh bien, il y a un grand débat qui s'est posé. Comment formuler ce que nous avions à formuler? C'est hier qu'on a posé la question de reformulation, je crois. Comment formuler ce que nous avions à formuler pour notre temps de ce que dit la Torah à travers le vocabulaire et les catégories de quelle école philosophique? Et c'est une tâche impossible, parce que si vous en choisissez une, vous êtes découvert par rapport aux autres. Vous voyez, c'est le même problème. C'était possible au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait un langage de la culture extérieure. C'était ou Aristote ou Platon. Et même quand c'était les deux, c'était aisé. Alors au Moyen-Âge, il y a pu y avoir des grands philosophes, comme des grands rabbins, qui ont pu parler aux philosophes, comme Maïmonide, comme Judas Lévi, parce qu'ils avaient un registre culturel avec lequel se mesurer. Et vous comprenez à quel point, pour nous, leur registre culturel, je parle par exemple de Maïmonide, surtout de Maïmonide, c'est une spécialisation d'érudits. Ce n'est pas le langage de la culture actuelle. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Et déjà, en son temps, il a eu les oppositions de ceux qui ont refusé qu'on enferme le message de la Torah dans un langage particulier, trop différencié. Dans ce cas-là, c'est aisé à comprendre. Pour pouvoir recevoir l'enseignement du guide des égarés de Maïmonide, je ne parle pas du Mishneh Torah, c'est son enseignement de rabbin, il faut être spécialiste d'Aristote. Ne serait-ce que pour comprendre à quel point Maïmonide et Aristote, ça n'a rien à voir. Ne serait-ce que pour ça. Okay. Vous avez compris? Et je pourrais multiplier cela, mais c'est clair, ce n'est pas la peine de prendre du temps. C'est ce problème-là. Ce qui est trop différencié, c'est mort. Même si ça a l'apparence d'une vie intense. Il ou là sur scène, okay, comme j'ai dit hier. Vous avez compris à quoi ça fait allusion? C'est ce que nous vivons, n'est-ce pas? Alors vous avez des efflorescences, il faudrait employer un langage bergsonien. Vous avez des belles fleurs qui apparaissent sur les branches écartées. Mais elles sont déjà flétries, on ne sait pas. Et c'est le tronc central qui doit... ce tronc central qui peut donner n'importe quelle branche. Mais dès qu'il est... que c'est que cette branche, c'est la branche cadette. Je n'ai pas dit que ça se passe à la rue Cadet, mais... en tout cas, pour venir au problème... ces deux comparaisons ont été avec le Karkara Olam, comme vous avez dit, c'est-à-dire le sol sur lequel toute fleur peut pousser, pour continuer cette image, et d'autre part le parfum qui est parfum pour tous. Voilà, je crois que là il y a une idée essentielle et il faut évidemment la retenir. On continue. Vezé ki Torah sikhli tusechel pashut ulfichach im ha'adam esim atzmo karuga. Et c'est pourquoi si l'homme consent à être, se fait comme ce sol que tout le monde piétine, foule, chez où Baal Anava, parce qu'il est humble, vraiment, c'est moi qui ajoute vraiment, ou basé Yeshlomida Tapshitut, et en cela, il a la qualité de la simplicité. Kemoshe Bernou, comme nous l'avons expliqué. Verrache Rukar, et quand il est ainsi, alors il a un lien avec l'intellect, avec ce qui est de l'ordre de l'intelligence vraie, pure. Shehu Pashut, qui est simple, Vetorato Mikaemet, et sa Torah réussit. Sa Torah se maintient. C'est pas une mode, c'est une Torah. C'est clair, hein? On continue. Ulfirach, et c'est pourquoi. Ah non, c'est rare. Ou l'ikale amré. Et pour ceux qui disent que bosem hazé, comme ce parfum, chez akol min basfim imenu, dont tous ce parfum, chez asechel mashpiar la kol, cela vient de ce que, j'ajouterai un autre mot, l'intelligence, l'esprit, donne à tous. le propre de l'esprit, c'est d'être mashpia, de donner et non pas de recevoir. Ve'akol mekablim imenu, et tous reçoivent de lui. Ve'lo yugbal lo davar meyuchad, et il n'est pas limité par quelque chose de particulier, rakakol milbasmim. Mais tous se parfument. Ça, nous l'avons déjà expliqué, je crois que c'est suffisamment clair. C'est se garder de la différenciation. Parce que une Torah trop différenciée ne concerne qu'un juif différencié, et pas tout un chacun. Ce qui était le projet de la Torah parle aux enfants d'Israël. Nous avons étudié cela d'ailleurs dans des problèmes de sociologie concrète. Dans une communauté où le rabbin, c'est le rabbin des juifs religieux, la communauté n'a pas d'avenir. Le rabbin doit être le rabbin des juifs. Et au fond, c'est clair ce que je veux dire. Hein, ses principales difficultés, ben, ce n'est pas avec les autres qui les aura, il est là pour ça. C'est avec les juifs religieux qui pensent que le rabbin ne leur appartient qu'à eux seuls. Et qu'un rabbin se doit de prendre des positions partisanes de telle ou telle tendance, fraction fractionnée. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. C'est un problème qui, pour la société israélienne, est encore beaucoup plus grave. Parce que ça s'érige en parti politique, et la vie politique, c'est une vie de tension, de jeu de force, et vous savez tout cela. Voilà pourquoi le Rafouk a été si important pour notre temps. Parce que ce pressentiment d'une Torah du clan Israël n'existe nulle part ailleurs. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Ça n'existe nulle part ailleurs. Je voudrais être bien précis. Partout ailleurs, c'est une vraie Torah vivante, mais pour une tendance en particulier, une manière d'être homme, donc d'être juif en particulier. La Torah du Baal Shem Tov, c'est pour les chassidim. La Torah du Gaon de Vilna, c'est pour les mitnagdim. Ce n'est qu'au niveau de la Torah du Rav Kook que le Baal Shem Tov enseigne aussi aux mitnagdim et que le Gaon enseigne aussi aux chassidim. Alors, je raconte une petite anecdote. Il y a 40 ans à peu près, j'étais l'élève du Rav Schneerson, pas le Admour actuel, son cousin, qui était d'ailleurs l'héritier légitime. J'ai appris avec lui le Baal HaTanya, dans sa petite, il venait à peine de s'évader de Russie, et dans une petite synagogue à la rue Dieu. Mais les coïncidences, juste à côté de la rue du Paradis. Et alors, nous étudions dans le Baal HaTanya, et puis, spontanément, j'ai donné une explication d'une difficulté qu'il y avait dans le texte, que j'avais apprise dans le Gaon de Vilna. In extremis, quand il m'a demandé, mais d'où tu sais ça? In extremis, j'ai pas cité le Gaon de Vilna. Si j'avais cité le Gaon de Vilna, il aurait eu une attaque. Comment le Gaon de Vilna aide le Rav Schneerson à comprendre le Tanya? Je sais pas ce qu'il aurait dit. Vous voyez le drame, okay. Il les a, quand il parlait des mitnaglim, avec beaucoup d'humour et de sourire, mais c'est tout comme, il disait « Holchim al alba », ceux qui marchent sur quatre pieds. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où c'était arrivé. Vous connaissez ces histoires-là. Je raconte une autre anecdote. Et on peut arrêter l'enregistrement, c'est privé. Pour vous dire à quel point nous sommes habitués à partir de, à travers 2000 ans, à une espèce de d'atomisation, de différenciation. Que, comme vous savez, ma femme est d'origine polonaise. J'ai bien sûr. Et à l'époque, j'étudiais, quand on s'est fiancé, j'étudiais le Rav Nachman Dafka avec le rabbin Ari Pavé, qui a précédé le Rav Rotenberg actuel, qui était un grand. Rubinstein, tu l'as connu, qui était un des derniers grands chassidim, des grands cours de chassidim de l'Europe centrale. Réfugié à Paris, terre d'asile. Et c'était tout au début. Je ne pouvais pas suivre en prononciation ashkénaze. Et alors, on étudiait par écrit. Et alors, quand on s'est fiancé, je me suis dit, tiens, ça va lui faire plaisir, je vais lui présenter ma fiancée d'origine polonaise. Spontanément, il m'a dit, très heureux, dit, ah, tu vas te marier avec une juive. Alors,
Alors j'ai dit, et moi j'ai pas vu.
Mais c'est pas ce que je voulais dire.
Oui, jusqu'où? Et jusqu'où on est arrivé? C'est très émouvant d'ailleurs. Jusqu'où on a pu arriver? Et ça travaille, et c'est comme ça. Alors quand c'est au niveau des contenus de la Torah, c'est une véritable mutation qui doit nous faire passer de la Torah des tendances à la Torah du clan. Et regardez comment le Maharal a visé ce problème au fond. Et il dit, vous serez comme des pontifs, on vous marchera dessus des deux côtés. C'est bien clair. Alors on continue. Et est-ce que je suis arrivé? Ulika de Kouvé, que vous savez, j'ai connu une basse mimenu, chassez que ma spire la col, vers col me cabli mimenu, velo yugbal, lo davar miouchad, raka col mit basse mim, ulfira, et c'est pourquoi. Donnez-moi le mot qui suit. Asechel, nimshal la maïm, l'intelligence est comparée à l'eau, qui a maïm mit pashtim belogoul, car l'eau s'épanche sans aucune délimitation. La M, alors, comment chez Dbaer, comme on l'a expliqué, Bassamour. Ulchach, im talmid hacham, yeshlo midat ha-sechel, si le sage a cette vertu de l'intelligence chez l'eau yugbal, non limitée, non conditionnée par le vocabulaire de telle ou telle école, les catégories de telle ou telle école, rak torato mit pachet, la colle, mais que sa Torah s'épanche à tous, vers kol mit basmi mimenu, et que tous sans parfume, as torato mit kayemet, alors seulement sa Torah se maintient. C'est extraordinaire comme précision. C'est-à-dire, celui qui enseigne, quel que soit le juif qui l'écoute, c'est la Torah qui l'écoute, alors c'est la vraie Torah. Alors, redescendons dans le concret. Celui qui enseigne, et s'il y a dans la salle quelqu'un de la Shomer HaTzair, et quelqu'un de la Goudat Israël, et que les deux apprennent, ça veut dire que c'est la Torah. Si c'est qu'une Torah pour la Shomer HaTzair, c'est pas la Torah. Si c'est une Torah que pour la Goudat Israël, c'est pas la Torah. Et comme nous sommes, grâce à Dieu, très prolifiques en tendance, vous voyez donc à quel niveau d'indifférenciation il faut que cela s'exprime pour que ce soit vraiment la Torah qui se réalise, qui se maintient. Et c'est pourquoi je vous disais, j'y reviens, c'est une véritable mutation dans l'enseignement qui a commencé avec l'école du Rav Kook. Et ça n'a rien à voir avec telle yeshiva. Et au fond, le danger de la yeshiva du Rav Kook, c'est la tendance à devenir une parmi les yeshivot. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc. Bon. Ve Irae Gamken, il apparaît aussi, chez l'Olevad Beinian la Torah Kaamar, que ce n'est pas seulement en ce qui concerne le sujet de la Torah que ces choses ont été dites. Mais que l'homme doit avoir cette vertu en toute chose. Klomar, c'est-à-dire chez Ubal Anava, qu'il doit être modeste. Enfin, ici c'est plus que la modestie, la Anava, vous avez déjà compris, en toute chose. Merutse la kol, agréé par tous. Ver kol mekablim hana mimeni. Et que tous reçoivent, je ne dirais pas jouissance, mais joie de lui. Verdavaru mityaches el asechel, et cela se relie à la définition de l'intelligence, sheeno kemo hageshem, qui n'est pas comme une chose matérielle, shumugbal, délimité, ou miseraoui el ha el atora. Et en cela, ce Talmid Chacham, qui a cette vertu de l'intelligence, non limite, de l'ordre de l'infini et pas de la totalité, comme dirait M. Levinas, alors ça, c'est Torah. Car Pirouchze, c'est ainsi qu'est l'explication de cette source, Vezé Ensarj Lefaresh, Oto, et cela n'est même pas besoin de l'expliquer, à la Torah Bilvad, concernant la Torah seulement. Ce que la Gemara voulait dire, c'est en toute chose. Voilà donc une bonne leçon sur le sujet, des vertus de moralité nécessaires à l'accès à la véritable intelligence. Alors, nous abordons le dernier paragraphe. Bepere Kanoder, dans Nedarim, page 55a, on pose la question suivante. Il s'agit d'un verset dont je vais vous donner la référence. C'est dans le livre de Bemidbar,
où on nous décrit au chapitre 21, verset, et le verset en question, c'est le verset 20, le dernier verset du chapitre, les différentes étapes de la traversée du désert, les différentes stations, les différentes haltes qu'ont traversé les Hébreux en passant de l'Égypte pour aller en Israël. Apparemment, il y aurait là il peut sembler qu'il y a une énumération fastidieuse des différentes étapes. Pourquoi la Torah tenait à ce que nous sachions le nom de chacune de ces stations? Je voudrais tenter de l'expliquer comme nous l'avons entendu de M. Gordin il y a longtemps. C'est-à-dire que nous passons du monde de l'Égypte, qui est l'ancien monde, pour aller en Israël, le monde nouveau. Rien à voir avec ce monde-ci, le monde à venir, mais c'est parallèle. Eh bien, d'un Yesh ancien, pour aller à un Yesh nouveau, il faut passer par un Haïm. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Okay. Ça veut dire, le monde de l'Égypte, c'est un ancien monde qui va disparaître, se détruire. Et on doit construire un monde de l'avenir qui va commencer avec Josué et l'entrée dans le pays. Alors, pour passer d'un Yesh, d'un Ilia, à un autre Yesh, à un autre Ilia, il faut passer par une étape de il n'y a pas, à la fois désintoxication de ce qui se passait avant et préparation à ce qui se passera après. Alors, c'est ce qu'on appelle en général en français la génération du désert, c'est le temps des 40 ans du désert. Ce terme en français a un tout autre sens qu'il a vraiment dans la Torah. La génération du désert, on l'accuse d'être la génération perdue, Ken. Mais c'est une génération de grands, d'Ordéa. Ce n'est pas n'importe quelle génération. C'est la génération qui a obtenu la sortie d'Égypte. Elle n'a pas mérité l'entrée en Israël, c'est les enfants. Mais elle a obtenu la sortie d'Égypte. Elle a obtenu la révélation de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah, Midoraïta, c'est les mitzvot données à cette génération-là. Donc c'est une génération de grandeur. Ce n'est pas le sujet maintenant. Qu'est-il arrivé pour qu'il y ait eu ces... Il y a eu ces catastrophes des 40 ans au désert, pour qu'elles soient disqualifiées pour l'entrée en Eretz Israël. C'est un autre sujet, je ne voudrais pas y entrer. Mais je crois qu'il faut corriger cette erreur de croire que c'était une génération de... comment dire, de... Aidez-moi à trouver le mot en français. De pas. Oui. Dor Ekeshu Taltol. Vous avez bien fait de dire ça ressemble. Ça ressemble. Okay. Donc, je veux dire, on en parle comme une génération pleine de défauts. Ce n'est pas n'importe qui a ces défauts-là. Ça s'étudie pour lui. Je ne dis pas ça pour rassurer les générations du désert contemporain, mais c'est pour indiquer les choses dans leur véritable...
Et c'est la génération qui a fait la nation.
Oui.
Il y a fait la nation.
Il y a
fait
la nation.
Est-ce que le rabbin Eisenberg et le père du Christ sont en train d'expliquer que les dimanches matins, la France est fière?
Ah bon? J'ai entendu dire que c'était l'inverse, c'est le père du Christ, le rabbin Eisenberg. J'ai entendu dire. Et alors. Oui. Alors,
nous allons avoir un texte de la Gemara qui va exposer, selon la méthode du Midrash, ce que nous pouvons apprendre de la signification des termes qui désignent chacune de ces étapes. Il y a eu 50 madrigaux, 49 qui sont 50, et ça fait partie en tout cas de la liturgie du soir du Seder des Kabbalistes, d'étudier ces différents niveaux, chacun avec leur nom, et vous l'avez dans ce chapitre 21 de Shemot. Maïdirti. Que signifie ce qui est écrit ou Mimidbar Matana? C'est des noms d'endroits. Alors, Mimidbar, ça veut dire le désert. Matana, ça veut dire un don. Ou Mimatana Nachaliel. Nachaliel, ça veut dire l'héritage de Dieu. Ou Minachaliel Bamot. Bamot, ça veut dire les hôtels des faux dieux. Voilà l'explication. Troisième. Kivan, chez Ose Adam et Asmo Kemidbar, lorsque l'homme fait de lui-même un désert, Descartes dirait table rase, enfin vous voyez à peu près ce que je veux dire. Si on se fait comme un désert, chez Oumoufkar, qui est un endroit qui n'appartient à personne en particulier, mais à tous, vous voyez comment la même idée est reprise, c'est clair, Moufkar, qui n'a pas de propriétaire particulier. Israël, c'est l'Israël pour les nations. Il ne peut pas être formé dans une nation en particulier. Ce serait trop spécifique.
ce ne serait que Israël pour l'Empire égyptien. Alors il faut qu'il passe par le désert, et c'est au désert qu'il se prépare pour toutes les nations. Ça va, c'est compris, okay? Alors, Nitnalo HaTorah b'matana. Alors la Torah lui est donnée en cadeau, Matan Torah. Vous voyez, Mimidbar Matana. Après le désert, le don de la Torah. Shenehemar ou Mimidbar Matana. Regardez l'humour de la caméra. Puisqu'il a écrit, et du désert, le don, c'est-à-dire, et de l'endroit qui s'appelait Midbar à l'endroit qui s'appelle Matana. Mais qui va, Nitnalo, ne. Et puisqu'elle lui a donné cette Torah, Nahalo, elle, son héritage, c'est Dieu. Vous rappelez ce que j'ai dit de Jacob, okay? Et à partir du don, l'héritage de Dieu. Entre le don et l'héritage, il y a le mérite d'avoir acquis ce qui a été donné. Par rapport à l'étude, je vous rappelle, l'étude, ça consiste à transformer un contenu de mémoire en savoir. La Torah nous est donnée en cadeau, Zichlo Torat Moshe, Abdi, dans la mémoire, l'étude la transforme en acquis, kinyan, de savoir. Et s'il n'y a pas de contenu de mémoire, il ne peut pas y avoir de savoir. Bon. Vekivan shenachalo el ole l'gdoula. Et lorsque, à partir du moment où son héritage, c'est l'être de Dieu, il monte dans la grandeur, chez Nehemar, ou mi Nachaliel Bamot. Et à partir de Nachaliel Bamot, ici se traduira les hauts lieux. Veim Igbia et Ratsmo, mais si il s'enorgueillit d'être dans les hauts lieux, Akadosh Baruch Hu Mashpilo, Dieu le jette à terre, le rabaisse, chez Nehemar. Umi Bamot Hagai. Et Hagai, c'est le guet de la vallée. Okay? Et des hauteurs en bas. Alors, vous voyez qu'il y a le processus de l'enseignement, il y a les étapes de l'ascension. Mais si arrivé en haut, il est orgueilleux, alors il est jeté à terre. On continue. Velorod. Et pas seulement cela. Et là, c'est. Je ne lis pas le mot. Chokfim. On le rabaisse, Bekarkar, jusqu'au sol, chez Nehemar, Venishkefa al Pene Yeshimun. Ici, la Gemara se sert du mot qui signifie un poste d'observation. Alors, on le voit de haut. Vous voyez ? Les Ashkif. Ashkifa, Vimeron Kotshecha. Les Ashkif, c'est contempler de haut en bas. Veim Hoser Bo, mais s'il revient. C'est-à-dire s'il regrette sa faute d'orgueil, Akadosh Baruch Hu Magbio, Dieu le réélève, chez Nehemar, Kol Gei Nase. Un verset des prophètes qui dit, mais toute vallée sera élevée, surélevée. Pirouche d'Abarzé. L'explication de cela que Moshe Idbaer, comme on l'a éclairé, l'Ifnézé auparavant, qui est la Torah Shayechet, Rakedmi, chez Logava. Que la Torah ne concerne que celui qui n'a pas d'orgueil. Et tous sont égaux pour lui. Pour celui-là, la Torah est convenable. Et aussi que la Torah appartient au monde entier. Dibre Torah efker. Ça veut dire personne n'a le droit de dire cette Torah m'appartient, cet enseignement m'appartient, cette précision m'appartient, cette explication m'appartient. Regardez à quel point nous sommes loin. Au niveau de la manière dont Talmud considère la propriété littéraire de la Torah avec les mœurs des Juifs contemporains. Et vous connaissez cela. C'est-à-dire, la Torah est appelée Hefker. Je vous citer deux enseignements à ce sujet parmi d'autres. Celui qui ne donne pas à autrui une connaissance de Torah, c'est comme s'il la lui avait volée, parce qu'elle lui appartient puisqu'il est d'Israël. Est-ce que c'est clair? Regardez jusqu'où ça va. Okay. Le deuxième, c'est que la Torah est efker, ça veut dire personne n'a le droit de dire cette explication, c'est à moi. Vous voyez comment c'est lié au sujet. Seulement, la Gemara va nous donner un tout autre principe. à Omer d'abord, Beshem Omro, mais Vig et Oulala Olam, c'est un sujet pour lui-même. Vous voyez comment c'est hypertrophié d'un coup. Celui qui cite un enseignement au nom de celui qui lui a dit mène la délivrance dans le monde. C'est un sujet pour lui-même, on ne peut pas l'étudier en quelques phrases. Hein. La Torah ne dit pas c'est une mitzvah de citer de qui tu as appris. Elle sait très bien que les hommes ne le feront pas. Et la Torah n'a pas l'habitude de mettre des pièges. Vous connaissez ce sujet-là, hein. La Torah tient compte de la réalité. Et si la Torah disait c'est une mitzvah de citer de qui on a appris, c'est une transgression de ne pas le citer, tout le monde ira en enfer. Elle sait que c'est comme ça. Alors elle ne dit pas qu'il y a une mitzvah comme ça. La Torah dit, celui qui fait cela, celui-là délivre le monde. Geoula la olam. Je n'ai marre, va tomber, rester, bêcher mon déchaï, mais si vous voulez un jour, on étudiera cela. Peut-être à la fin du séminaire, si on a le temps, rappelez-moi, ça a marqué le jour de lui. C'est très joli d'ailleurs comme enseignement. De la même manière, il n'y a pas de mitzvah, tu ne mentiras pas. Vous avez remarqué ? Ça n'existe pas. Parce que c'est très bien que parfois il faut mentir pour sauver quelqu'un. Ne serait-ce que comme ça. Mais elle dit, « Midevar sheker tirhak » de la chose de mensonge, tu t'éloigneras. C'est-à-dire, toi, c'est très bien que c'est pas bien de mentir. Elle dit donc, c'est pas bien de mentir. Mais elle ne dit pas, interdit de mentir. Parce que ça veut dire qu'elle enverrait tout le monde en enfer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois. Il faut préciser cela. La Torah est une Torah de vérité parce qu'elle tient compte de la réalité. C'est une Torah monothéiste. C'est la Torah de celui qui a créé la réalité. Elle connaît la nature de l'homme à laquelle elle s'adresse. C'est la raison pour laquelle c'est interdit d'ajouter ou d'enlever une mitzvah de la Torah. Celui qui s'ajoute une mitzvah, eh bien, et il est en danger. Parce que la Torah n'a pas dit cette mitzvah, parce que la Torah parle à l'homme. Et voilà un homme qui s'invente une identité qu'il n'a pas. Okay? On appelle ça faire des vœux. Okay? Le nazir. Alors, tant qu'il n'a pas accompli ce qu'il a promis, et il est en danger. Et on l'appelle Rachar. Dès qu'il l'a accompli, on l'appelle Kadosh. Mais tant qu'il ne l'a pas accompli, il est Rachar. Et la Torah dit, Adam qui afflit l'Indor Neder. Lorsqu'un homme a le courage de faire cette chose miraculeuse, un vœu. Quelqu'un qui dit, je promets que je ferai ça. Mais est-ce que tu sais que si tu peux le faire ? Pourquoi on dit toujours Blineder, Blineder, sans promesse ? Vous avez compris ce que je dis ? Parce que promettre, c'est jurer. C'est une des formes du serment. Et jurer, ça veut dire aussi vrai que Dieu existe. Alors imaginez, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'au fond, on ne croit pas que Dieu existe. Ça veut dire, à la limite, c'est très, très grave comme comportement. Donc, d'où le Kol Nidre, où chaque année, la Torah prend la précaution de délier tous les vœux, parce que, à l'avance. Alors, ceci dit, ça s'étudie. Celui qui dit « je vais faire un vœu », et j'irai à la synagogue le jour de Kippour, on lui pardonne pas. Parce qu'il y a un verset qui dit « Moussat, c'est Fatecha, Tishmour ». Tout ce qui est sorti de ta bouche, il faut le préserver, le garder, l'accomplir. Bon, et pourquoi je vous ai cité tout ça ?« Ken kia Torah, gam ken, hi efker lakol ». Lorsqu'il s'agit d'une Torah qui est donnée, et non pas vendue, comme on l'a appris dans les cours précédents. Ulchach, el mitiahes la Torah ki mishehu efker. N'a de rapport vraiment avec la Torah vraie, j'ajoute ces adjectifs, que celui qui est par personne, comme personne qui est efker. Vous voyez à quel point le Talmud que commente ici le Maharal n'a jamais pensé à donner des fonctions honorifiques à ceux qui portent la Torah. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Au contraire, il n'y a que ceux qui sont le hefker de la communauté qui peuvent transmettre la Torah. Les autres sont handicapés. Et est-ce que c'est clair ce que je dis là, okay? Donc, c'est très, j'allais dire chassidique, mais chez les mitnagdim aussi, il y avait cela. Je ne sais pas pourquoi je dis ça au passé. c'est très...